Allez, on se retrouve. On était avec Césaria, Evora. On se retrouve aujourd'hui pour écriture dessinée avec Bruno. Bonjour Bruno.
Eh oui, ça y est, c'est parti. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de Régis Loisel. Alors, ses séries sont définitivement des classiques, que ce soit La quête de l'oiseau du temps, Peter Pan, Magasin Général. Et plus récemment, un putain de salopard, Régis Loisel. Je vais y arriver. Régis Loisel est toujours, s'affirme toujours avec ses qualités exceptionnelles de metteur en scène. Nous retrouvons ce talent dans La dernière maison juste avant la forêt, co-scénarisé avec Jean-Baptiste. Jean Blaise Gian, je vais y arriver, entretien fait avec Régis Loisel, il est enregistré dans les conditions du direct, et c'est lui qui va nous inviter donc dans cette dernière maison juste avant la forêt. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Ouais, j'ai un peu bafouillé, c'est, des fois c'est comme ça. Hein. Ouais, et oui. Il faut faire avec. Alors, je vais démarrer par une brève, celle concernant le Festival d'Angoulême et cette histoire avec la société 9e Art Plus qui gère le salon, qui est critiqué pour sa gestion opaque. Pas seulement, ils ont quand même un procès pour harcèlement. Et donc, Anouk Ricard, qui est la prochaine présidente du Salon d'Angoulême, donc récompensée pour l'ensemble de son œuvre, avait annoncé le boycott du Salon, qu'elle ne viendrait pas si 9e Art Plus était reconduit dans sa gestion et dans son rôle de gestion, effectivement, du festival du Salon d'Angoulême. Ça n'a pas empêché qu'il y ait cette reconduction pour 10 ans. Et là, c'est les éditeurs qui ont tout de suite montés au créneau. Média Participation, donc, qui représente quand même Dargaud, Dupuis, Lombard, qui a dit, nous, si ça continue comme ça, nous n'y allons pas. Et là, retour en arrière. Donc, la société 9e Art Plus ne sera pas reconduite dans la gestion du festival. Elle est en poste jusqu'en 2027. Donc, sur la prochaine édition, il reste encore un certain nombre de questions à venir. Mais déjà, cette étape a été franchie et on a pu donc, je dis on parce que je suis solidaire, mais donc l'ensemble de la profession a réussi à ce que cette société soit écartée définitivement du salon. Moustique. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais parler en mal d'un livre, d'une bande dessinée. Parce que je trouve que compte tenu du très grand nombre de livres qui sont publiés par an, et notamment de bandes dessinées, donc on est au-delà des 5000 livres parus, prendre du temps pour parler de ce qu'on n'aime pas, c'est quand même enlever de l'espace pour ce qu'on aime. Mais là, il y a quand même des frontières à ne pas franchir. Elle avait été faite par le passé, ça ne devrait plus pouvoir être possible. Je précise, il s'agit du 4e volume d'une série intitulée « Survival », qui est scénarisé, imaginé par Christophe Beck et des dessinateurs se succèdent. Il y a d'ailleurs, par exemple, sur ce 4e tome, Guna Vala, 2 dessinateurs. Il y en a un qui fait jusqu'à la plage 60 et l'autre qui va prendre les quatre dernières. Moi, 60 à 64, ça fait 5 pages. Alors déjà, on peut se poser une question, pourquoi il y a deux dessins différents? Est-ce qu'il y en a un qui en a eu marre, qui dit non, moi j'arrête de dessiner ça? Mais je ne sais pas, donc je n'épilogue pas. Alors, pourquoi cette envie d'un coup de gueule? Alors déjà, le scénario, voilà ce qu'on nous dit, que c'est une série concept consacrée à la survie dans des contextes extrêmes. Le récit. Suite à un crash, des hommes et des femmes se retrouvent piégés au cœur de la jungle de Guanayala, en Amérique du Sud, environnement hostile et impénétrable, l'air y est chaud et humide, suffocant, les araignées, les serpents, venimeux et les fauves y sont légion, comme les narcotrafiquants. Quiconque y met les pieds est coupé du reste du monde, sans réseau, sans espoir. Bon, ça c'est ce qu'on nous vend. Eh bien, le scénario, c'est déjà les raisons du crash. Il y a un membre de l'équipage, une hôtesse de l'air, qui a une relation amoureuse difficile avec un homme qui est marié, qui veut pas abandonner sa femme. Alors, ça traîne. Alors, à un moment, elle en a tellement marre, elle décide de l'empoisonner. Bien sûr, elle va l'empoisonner au moment où il va prendre les commandes de son appareil, et il va tomber raide mort pendant le vol. Alors déjà, l'hôtesse de l'air qui doit avoir un petit poids dans la tronche et qui va imaginer que c'est vachement bien de faire l'empoisonnement du pilote alors que l'avion est blindé de monde. Alors déjà, quoi, qu'est-ce que c'est que ces personnages ? Bon, le copilote, il s'est fait piquer par un moustique tigre, alors il n'a pas pu prendre non plus les commandes, il est devenu boursouflé, et lui aussi il est mort. Donc l'avion se crache. Les lieux. Je vous ai parlé d'une jungle impénétrable. Jungle impénétrable, on a du mal quand même à y progresser. Et là, on a des clairières. J'ai jamais vu autant de clairières dans une jungle impénétrable. Alors c'est sûr que pour le dessinateur, c'est beaucoup plus facile de mettre des personnages dans une clairière que dans une jungle impénétrable. On peut imaginer ça. Mais de là à mettre un personnage en fauteuil roulant qui va progresser dans la jungle impénétrable, alors là quand même, il faut avoir peut-être un peu de mesure. Alors bien sûr, pour faciliter le fauteuil roulant, ben, la solution, elle se trouve à 25 km. Bon, ben, on y va, hein. C'est n'importe quoi. Déjà, quand vous êtes là, à ce niveau-là de l'histoire, vous vous dites, mais c'est quoi ce bazar, quoi. Alors, en plus, cette histoire de crash d'avion, ça avait déjà été scénarisé par Jean Van Damme pour Danny dans une histoire sans héros, qui était une histoire qui était tout à fait pertinente, et il y avait un sens de l'intrigue, il y avait des dialogues, des relations entre les personnages qui faisaient que l'histoire était tout à fait convaincante. Comment faire pour se sortir de cette situation inextricable? Et c'était pas une solution à la Eugène Sue dans Les Mystères de Paris, c'était vraiment une trouvaille. Mais là, on reprend le canevas, mais c'est pas du tout le même esprit. Alors déjà, l'hôtesse prise de remords, qui ne peut pas supporter cette culpabilité, va se confier à une autre rescapée. Et elle lui dit tout, elle lui dit « voilà, c'est moi qui ai assassiné le pilote, et surtout, tu ne le dis à personne d'autre. » Alors l'autre, « mais oui, je ferai ça. » Et la cause d'après, elle est en train de raconter à tout le reste des rescapés ce qu'elle devrait ne pas dire. Alors, bon. Et donc, là, il y a une... Alors, vous imaginez facilement comment on peut exploiter ce petit effet de scénario. Mais ce qui est ce qui rajoute à ces problèmes-là, à cette situation-là, c'est les dialogues. C'est des dialogues où il y a une sorte d'humour machiste hors d'âge qui a été suffisamment stigmatisé pour sa bêtise et pour ce que ça révèle d'une société où l'homme se croit surpuissant. Alors là, des dialogues comme ça, on en a quelques-uns. À un moment, il y a une femme qui est rescapée, qui est un peu à l'écart du groupe. Elle tombe sur des narcotrafiquants. En deux cases, elle se fait déjà violer. Et après, elle se fait immoler par le feu. Et on se retrouve dans ce livre avec une sorte de catalogue de perversion, le pire de la nature humaine. Il n'y a aucune espèce d'empathie nulle part. Alors que justement, des chercheurs ont montré que les organisations, les réflexes de survie dans nombreuses situations se faisaient par un renforcement de la solidarité qui est patent, qui a été vérifié, qui est prouvé. Et là, on est complètement à l'inverse. Alors ça, la partie scénario. Alors déjà, vous imaginez l'état dans lequel je pouvais me trouver au moment de sa lecture. Et puis, il y a la partie dessin, il y a la partie mise en scène. Alors, des images avec qui sont superposées sur d'autres, qui sont foisonnantes. On se retrouve avec un découpage, on peut avoir 5 bandes d'images, des images toutes petites, un envahissement des dialogues, parce que ça parle beaucoup dans la jungle inextricable. Ils ont des tas de choses à se dire, ils se racontent leur vie, ils tombent amoureux. Et donc, voilà, ça parle, c'est verbeux. Il y a une case, on se retrouve avec 5 ou 6 bulles. On a des tout petits personnages parce qu'il n'y a plus de place pour dessiner. Et ça, c'est continuel. Il y a une question de fond. C'est-à-dire que c'est un éditeur ou un directeur littéraire qui supervise cette collection. Il s'appelle Jean Vaquet, il est aux éditions Soleil. Et Christophe Beck, qui est le scénariste, a une notoriété importante. Il a fait quelques séries tout à fait honorables et donc il suit. Et le premier survival, même si on n'était pas pleinement emballé par le concept, se tenait. Mais là, il y a une sorte de dégradation des contenus, de la manière de faire, de réaliser cette bande dessinée qui s'est complètement dégradée. Alors, quel est le rôle de l'éditeur? Est-ce qu'il a laissé passer parce que, bon, on dit rien à Christophe Beck, quand même, c'est un scénariste maison. Et donc, surtout, mais c'est pourri. C'est une bande dessinée qui devrait être bannie des étals de libraires. Un éditeur ne devrait pas s'abaisser à publier un tel livre. Voilà. Mais je tenais à le dire parce que on arrête ces conneries. Allez, musique.
Soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais le faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin. Les elfes, divinité de la nuit, les elfes couchent dans mon lit. La lune se faufile à pas de loup dans le bois pour danser avec nous. Je sonne chez la comtesse aujourd'hui, personne, elle est partie. Elle n'a laissé qu'un plat de riz pour moi, me dit un laquais chinois. Je chante
mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Je tombe soudain au creux d'un sentier, je défaille en tombant et je meurs à moitié. Et gendarme qui passait sur le chemin, gendarme, je tends les mains. Pitié, j'ai faim, je voudrais manger, je suis tout léger, léger. Au poste, d'autres moustaches m'ont dit au poste. Ah, mon ami, oui, 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 c'est vous le chanteur, le vagabond. On va vous enfermer, oui, votre compte est bon. Non, ficelle, tu m'as sauvé de la vie. Ficelle, sois donc béni, car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit. Je me suis pendu cette nuit et depuis je chante. Je chante soir et matin, je chante sur les chemins. Je hante les fermes et les châteaux, un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Et je couche la nuit sur l'herbe des bois, les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, ça va le plus fin, et je chante sur mon chemin.
Avec La dernière maison juste avant la forêt, Régis Loisel reprend le dessin dans sa totalité avec l'ancrage. Si l'auteur a toujours participé au scénario, voire l'assuré en totalité, comme sur Mickey, il a réalisé la mise en image avec des crayonnés poussés pour définir la mise en scène, mais aussi en totalité avec cette phase de l'ancrage où l'auteur marque le trait de sa personnalité. La dernière maison, juste avant la forêt, est un one-shot, récit en un volume. Il met en scène, dans cette farce, une foison de personnages orchestrés par Mère, Madame Cormolan, magicienne à 16 heures. Elle a statufié le colonel, son mari, exercé sa magie, ses talents sur Pierrot, son fils, pour qu'il se croie et se voie irrésistible. Mimi, une jeune femme, venue prodiguer ses charmes au colonel sur demande de Mère. Et heureusement, Gildas Paterne, un noir hérité des colonies, seul personnage d'aplomb, est le majordome de la maison et rattrape bien des frasques. Baigné dans une atmosphère fantastique, le récit s'emballe, chaque personnage jouant une partition parfaitement orchestrée. Une nouvelle fois, Régis Loisel met en scène cette foison de personnages avec une fluidité, une intensité rare, le tout porté par un dessin à l'énergie, donnant vie à ces personnages. Lectrice et lecteur jubilent, ils et elles sont dans cette dernière maison, juste avant la forêt. Nous sommes avec Régis Loisel pour qu'il nous fasse entrer dans cette dernière maison juste avant la forêt. Régis Loisel, bonjour.
Bonjour.
Alors, avec cette dernière maison juste avant la forêt, vous marquez votre retour au dessin. Comment abordez-vous cette mise en image? Quel travail effectuez-vous? Quel repérage? Quelle recherche de découpage pour trouver, définir le contenu de chaque case?
Alors, bah pour moi, je ne dis pas que c'est simple, ce serait mentir, mais comme je suis un dessinateur instinctif, l'image se construit très vite au fur et à mesure. Hein, j'en vois tout de suite. Bon, je lis ma page de texte pour illustrer, pour mettre ma mise en page. Et puis très vite, ça se fait très très vite, hein, moi, la mise en page, en un quart d'heure, une demi-heure maximum, c'est fait. Alors ça ne veut pas dire que la bande dessinée est finie, mais j'ai posé toutes mes masses, je sais où je sais quel plan je vais définir, etc. Et puis après, ben, y a des détails qui se rajoutent dans l'image. Alors évidemment, des trucs auxquels je n'avais pas pensé au début, que je rajoute parce que ça me semble évident de les rajouter à ce moment-là, quoi. Je pense que je vais rajouter un chat, et puis si effectivement, je vous donne un exemple, hein, chat ou un chien, ou ce que vous voulez, une souris, ou peu importe. Alors que c'était pas prévu, mais je l'ai mis là parce que tiens, je bouche un trou, ou bien je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, ça donne un petit truc sympa à l'image. Donc évidemment, si je le mets dans une image, ce chat, il va falloir que je raconte son histoire. Alors avec d'autres petits trucs, je sais pas, il va avoir une souris, ou il va boire. Où il faut pas, il va emmerder le chien qui est dans le coin, etc., etc. Des choses, c'est des petites histoires dans l'histoire, quoi. Et ça, j'aime bien faire ça parce que c'est complètement inconscient. Voilà, ça se fait au fur et à mesure, quoi.
Alors, comment ça s'est passé pour ce récit, puisque Jean-Blaise Djian a eu l'idée? Alors, quelle était cette idée de départ et comment l'avez-vous partagée et développée?
Au départ, c'est une idée qu'avait Jean-Blaise, qui était une idée mais très simple. Hein. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a dans l'album, hein, évidemment. Le statu quo de départ, c'est un type qui est très très laid, qui ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, et quand il se regarde dans un miroir ou dans le reflet d'une vitrine, il se voit vachement beau. Et donc, évidemment, il ne comprend pas pourquoi il se prend des râteaux avec les filles, quoi. Donc, c'est un gros problème. Donc, il était parti de là-dessus. C'est une vieille histoire hein, qu'il a fait il y a presque une dizaine d'années. Et voilà, donc, il y avait ça, il y avait ce personnage aller dans retrouver sa maison, son père qui est une statuette qui a été transformée en statue par la mère qui avait des notions de magie, de choses comme ça. Et voilà, il y avait ce petit bestiaire, des petits domestiques qui étaient comme des petits monstres, hein, mais des petits monstres un peu sympathiques. Je sais que par un moment il quittait ce petit univers dans cette baraque là. Et je lui dis, mais Jean-Blaise, enfin, je te parle à l'époque, parce qu'il m'avait fait lire son histoire pour savoir ce que moi j'en pensais. Je lui dis, mais Jean-Blaise, t'as un univers là extraordinaire, pourquoi tu les sors? Parce qu'effectivement, le personnage partait à Paris, après, je ne sais plus pourquoi, dans une histoire policière, mais qui n'avait plus aucun rapport avec cette dernière maison avant la forêt, qui ne s'appelait pas comme ça au départ, hein, ça s'appelait Macumba. Voilà, bon. Et je lui ai demandé, mais c'était pas pour que je la dessine, hein, puisque j'ai dit il y a une dizaine d'années, moi j'étais sur Mickey, j'étais en train de finir le magasin général, et donc il a refait selon mes critiques, enfin critiques entre guillemets, mes remarques plutôt, quoi, voilà. Voilà. Et quand je suis revenu en France, je me suis souvenu de cette histoire, et j'ai dit, écoute Jean-Blaise, ton histoire là, moi je veux bien la dessiner, mais j'ai plein d'idées et j'aimerais te les soumettre, parce que j'avais écrit je sais pas une centaine de pages avec des idées, les chasses du comte Zaroff, les flics, les cambrioleurs, toutes ces petites anecdotes qui rythmaient un peu l'histoire. C'est plutôt moi qui ai rajouté ça. Hein. L'idée, regarde si ça te plaît, si ça colle pour toi, si ça te fait rebondir. Et évidemment, ça pour lui, c'était super. Voilà.
Alors le récit est vraiment marqué par le fantastique, donc par la magie, puisque Yvette est quelque peu magicienne, s'est formée au vaudou, donc utilise des sortilèges, et puis il y a une galerie de personnages, donc le colonel qui est la statufiée, Gildas Paterne qui est une sorte de fils de colon qui est le majordome de la maison. Il y a ces
petits éléments stables.
Voilà.
C'est le mec le plus intelligent, le plus stable, quoi. Hein, c'est le pilier un peu de la maison, hein, entre la folie de la famille, c'est-à-dire la mère, le père et puis le fils. Et puis ben, Gilda, ce majordome, il est entre ça et puis les petits monstres, les petits êtres, quoi. Donc voilà, c'est vraiment le gros trait d'union entre ces deux mondes-là, quoi.
Alors comment
vous appropriez-vous ces personnages fantastiques? À quel moment le dessin vient les préciser, Régis Loisel?
J'y vais comme ça, j'y vais vraiment à l'instinct. Je me dis, de toute façon, si je fais des monstres, je ne veux pas faire des monstres à l'américaine avec des yeux partout, des tentacules, des griffes et puis des mâchoires à faire peur. Non, je voulais des espèces de petites formes comme ça. Au départ, je le dis, ce sont des ratés, puisque ce sont des personnages qui ont été, au départ, elle voulait faire du lapin angora, et puis en fait, le résultat, ça a fait ces espèces de petites créatures, qu'on appelle des petits monstres, mais c'est des petites créatures un peu rigolotes, absolument pas agressives, voilà.
Bon, il y a par exemple le canard en forme de bouée qui parle.
Ça, c'est une idée de Jean Blaise. Dans la galerie de départ, il y avait ce canard, il y avait Gilda Paterne, il y avait ces petits monstres, entre guillemets, ces petits êtres, mais qui n'avaient pas du tout les mêmes fonctions. Souvent, quand je décide, je ne fais pas beaucoup de recherches. C'est la première idée, c'est pour ça que je vous dis, je suis un peu instinctif. La première idée, je me dis, c'est la bonne. Je pourrais la travailler une vitam aeternam. Mais ensuite, quand on commence à vouloir retravailler, on se perd. Le problème que j'ai eu, le plus gros problème que j'ai eu de dessin, j'entends, par rapport à cette histoire, c'est Pierrot. C'est le personnage qui est traîné. Qui est, évidemment, il n'est pas beau, hein, puisqu'il ne plaît pas aux filles, et puis franchement, il n'est pas beau. Il fallait quand même que je le rende sympathique, il ne fallait pas que je le rende monstrueux, un espèce de pas beau. Vous savez, des fois, on croise des gens, on s'est dit, oh, po, il n'est pas beau, il n'est vraiment pas beau, puis il fait peur. Là, je voulais un personnage qui n'est pas beau, évidemment, mais qui est, pour qui on a une empathie, on a une sympathie, on est... Et ça, c'était pas évident. Ça, j'en ai fait des gueules et des recherches pour ce personnage-là. C'est le seul sur qui j'ai fait de la recherche.
Régis Loisel, dans cette foule de personnages, dans ce récit qui s'emballe, comment se travaillent les dialogues? Est-ce que vous les travaillez à deux avec Jean-Blaise Géant? Est-ce que vous les travaillez à haute voix? Comment faites-vous? Parce que ça sonne étonnamment.
Alors au départ, puisque Jean-Blaise me proposait une histoire, j'ai dit au tout départ, hein, ça fait déjà quelques années en arrière, j'étais pas encore intervenu dans le déroulé du scénario et puis des petits épisodes que j'ai rajoutés. Au départ, bon, il y avait ces dialogues. Donc, il a travaillé sur ces dialogues. Moi, quand j'ai repris le flambeau par rapport au scénario et par rapport à des scènes, moi, je l'ai dialogué mes trucs, vous voyez, parce que forcément, quand vous reprenez une scène, vous les dialoguez. Et ensuite, je soumettais mon travail de scénariste et de dialoguiste, parce que effectivement les deux parlent, à Jean Blaise en lui disant, tiens, est-ce que ça te convient? Ah ouais, j'aime bien ça, ou bien ah, là, on pourrait peut-être le dire autrement, après on tricotait ça ensemble, on affinait ça ensemble, parce que moi j'ai une tendance un petit peu à déborder, hein, je peux être dans mes dialogues extrêmement crus, à la limite du vulgaire, mais on s'entend, je dis ça en fonction de l'histoire que je raconte, évidemment, hein, je suis pas vulgaire ni comme ça mais quand je raconte une histoire, ce sont mes personnages. Donc si le personnage doit être vulgaire, il sera vulgaire, il parlera avec ses termes liés au personnage. Parce que je fais vivre mes personnages, je fais aucune concession. Des fois on me dit Jean Blaise, il me dit, tu crois qu'on peut dire ça comme ça, ou tu crois que, surtout dans les scènes un peu, il y a une scène un peu rythmée sur le côté sexuel, il dit, tu crois, Jean-Blaise? Ben, je dis, ouais, on va le faire. Et on raconte une histoire, moi je suis, il faut aller, comme c'est une farce, un truc énorme, il faut aller dans les normes. Si tu commences à trop te contrôler en disant il faut plaire à tout le monde, il ne faut pas faire de vagues. J'ai tendance à vouloir faire ce que j'ai envie de faire au moment où je pense le faire, quoi. C'est comme Mickey. Moi, quand j'ai fait Mickey, tout le monde s'est demandé comment on avait pu me laisser faire ça.
Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué l'emballement du récit, et notamment, donc, il y a cette galerie de personnages, et Mimi, donc, qui est une sorte d'escort girl qui va arriver pour, comme cadeau d'anniversaire pour le colonel, le mari d'Yvette qui est statufié. Et donc là, il y a effectivement beaucoup d'emballement. Et au niveau dessin, comment avez-vous géré ça?
Je travaille page par page, séquence par séquence. Non, séquence par séquence et page par page. C'est-à-dire qu'une séquence, voilà, si c'est une séquence trépidante où il y a effectivement les scènes justement où Mimi a rencontré, se propose comme cadeau d'anniversaire à la statue, donc la statue n'a pas de bras, n'a pas de jambes, hein, c'est un buste, c'est tout, et encore il n'a pas de bistouquette évidemment, donc il peut rien faire avec son cadeau d'anniversaire puisque c'était un cadeau d'anniversaire que sa femme lui offrait pour justement pour l'emmerder, parce qu'il ne peut rien faire avec son cadeau. Toute la scène va être complètement loufoque, quoi, complètement barrée, hystérique, et voilà. Et puis donc comme je vais travailler planche par planche, il faut vraiment que chaque bas de page, il faut que le lecteur ait envie de tourner la page pour savoir ce qui se passe. Donc à chaque fois, il faut que je rythme ça. Par exemple, quand vous passez d'une séquence de jour et pour passer sur une séquence de nuit par la suite. Ben, ce qui est toujours bien, c'est de pouvoir tourner la page. Donc vous finissez votre séquence en plein jour ou inversement en pleine nuit. Et quand vous tournez la page, hop, vous êtes en plein jour ou en pleine nuit, selon le scope. Et là, vous avez l'impression, en tournant une page, comme ça, vous avez l'impression du temps qui a passé. Ça fait une ellipse, vous voyez ? C'est une fin de séquence, et puis hop, vous tournez la page, et là, c'est en plein jour.
Alors, Régis Loisel, je vous propose une pause musicale.
C'est ce que je raconte là.
Ah, c'est parfait. Bah, on fait ça, je fais ça régulièrement. Hein. C'est le but de l'émission, c'est d'être aussi dans la cuisine et dans tout ce processus de création d'un auteur à l'autre, il change beaucoup. Bah, on va faire donc la pause musicale et puis on va continuer à discuter sur cette dernière maison juste avant la forêt.
A very strange, enchanted boy. They say he wandered very far.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Régis Loisel à l'occasion de la parution qui sera la semaine prochaine de La Dernière Maison, juste avant La Forêt, avec aussi au scénario Jean-Baptiste Gir.
Non, pas Jean-Baptiste.
C'est Jean-Blaise. En plus, je l'ai dit tout à l'heure.
On est tous les deux co-scénaristes. Quoi.
Voilà, c'est ça. Pourquoi reprendre le dessin comme ça?
Ben, mais j'ai jamais. Ça, c'est souvent les journalistes qui disent ça.
Alors,
j'ai jamais abandonné le dessin. Moi, je dessine tout le temps. Il se trouve que j'ai délaissé effectivement le dessin un petit peu parce que je me suis fourvoyé dans les scénarios, dans le sens où j'ai jamais eu la prétention de vouloir faire un scénario pour qui que ce soit. Bon, ça ne m'a pas empêché de dessiner, de continuer à dessiner. Et puis, mais après, j'ai commencé à travailler sur les scénarios avec le timbre de la quête de l'oiseau du temps. Donc ça ne fait pas en 5 minutes un scénario. Donc, alors, à force, j'ai délaissé un peu le dessin pour pouvoir me consacrer au scénario. Mais à travailler en pointillé, comme ça, c'est pas évident. Ensuite, pareil, j'ai travaillé sur le scénario avec un scénario que j'avais au départ qui s'appelait, enfin, ça s'appelait pas Magasin Général, mais c'est devenu Magasin Général, car j'en ai parlé à Jean-Louis, mais oh, c'est super, tu veux pas qu'on fasse le truc ensemble. Donc, ben voilà, donc Magasin Général, ça durait quand même 9 ans, hein, sur lequel je co-scénarisais avec Jean-Louis et je co-dessinais avec Jean-Louis. C'est-à-dire que moi, je partais de la feuille blanche, je faisais toute la mise en scène, je faisais tout le dessin, et Jean-Louis redécalquait avec ça, avec son graphisme à lui, sur ma mise en scène et sur mes cadrages. Voilà. Donc ce que je faisais, c'était pas un... Souvent, les gens ils disent « Ah, Loisel, il faisait du storyboard ». Non, pas du tout, c'est pas ça. Un storyboard comme ça, ça s'appelle la bande dessinée, parce que c'était quand même très 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 chiadé. Voilà, j'ai été scénariste un peu malgré moi, quoi. Et là, j'ai décidé que je ne faisais plus de scénario pour qui que ce soit, parce que, évidemment, ça m'a... voilà, les gens m'ont perdu comme dessinateur. Le dernier truc que j'ai fait tout seul, à la fois texte et dessin, là on parle de dessin, c'était Mickey. L'idée que j'ai fait bien, il y a 9 ans, vous voyez, donc c'est pas récent encore.
Alors quel rapport avez-vous justement à cette étape de la mise en image qui donc va donner le trait final et toutes les ambiances et toutes les différences de tracé que l'on peut trouver dans une image de bande dessinée? Alors quel rapport avez-vous, oui, Régis Loisel, avec l'ancrage?
Bah, j'ai un rapport... C'est pas ce qui me plaît le plus, hein. Vraiment, moi, ce que j'aime dans la bande dessinée, c'est la mise en scène. C'est vraiment le premier jet. Vous voyez, comme une première pression à froid d'une huile d'olive. C'est là où il y a tout le jus, il y a toute l'énergie, il y a tout le bazar. C'est là-dedans. Ensuite, évidemment, donc du storyboard ou du crayonné, entre guillemets, là, vous mettez toute l'énergie. Et ensuite, évidemment, il va falloir ancrer. Et là, ancrer, c'est pour moi, c'est fastidieux parce que j'ai l'impression de recommencer mon boulot, quoi, ma mise en scène. Et là, mais par contre, il faut être beaucoup plus attentif, il faut être beaucoup plus précis parce que c'est de l'ancrage, quoi. On ne doit pas se planter. C'est pour ça que moi, dans mes planches, c'est toujours un champ de bataille. J'ai beaucoup, beaucoup de rustines, de gouache blanche dessus, parce que j'essaie toujours de retrouver l'énergie du crayonné, essayer de le retrouver avec l'ancrage. Alors des fois, ben, des fois j'y arrive, il n'y a pas de problème, mais des fois, ben, mon trait part de travers. Parce que travailler avec l'énergie, c'est pas toujours, c'est pas tirer la langue, vous voyez, c'est d'envoyer le trait, et des fois ça part à côté, ou des fois c'est pas très bon, ou enfin non, peu importe. Voilà. Donc c'est pas la partie qui m'intéresse le plus. Parce que c'est, pour moi, je trouve ça par moments fastidieux. Fastidieux parce que j'ai beaucoup d'exigences, et ce qui fait que je recommence beaucoup de choses, beaucoup d'images, beaucoup d'une tête, un bras, enfin, c'est de la rustine, quoi. Parce qu'en fait, je ne me considère pas comme un grand dessinateur. Il y a des gens qui sont beaucoup plus habiles que moi et qui sont formidables comme dessinateurs. Moi, je fais ce que je peux, quoi. Hein, donc, je me débat dans ce que je sais faire, alors, je pense que je me débrouille bien. Hein, c'est pas le problème. Je veux pas jouer la fausse modestie. Mais j'y travaille beaucoup, quoi. Ça, c'est vraiment un gros travail. Puis, moi, j'ai envie de faire rêver les gens. Donc, évidemment, je vais mettre du détail. Je vais mettre les ambiances, des trucs comme ça. Comme dirait l'autre, je me casse le cul quand même. Hein. J'adorerais ne pas pouvoir me le casser. Et les choses vraiment, 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 j'ai pris du plaisir à dessiner avec une liberté formidable, parce que une rapidité, une liberté, c'était Mickey. Voilà, parce que pour moi, Mickey, c'est facile à faire. J'ai été bercé par ça, parce que c'est mon influence numéro un. Donc j'étais, évidemment, c'est pour moi, c'est que quand je l'ai fait, c'était très agréable parce que je ne posais pas de problème. Quoi.
Alors, je voudrais terminer cet entretien avec une question sur la bande son de vos albums, de vos images. À quel moment la travaillez-vous et qu'est-ce que vous avez trouvé
Quand vous donnez une énergie à un dessin, effectivement, vous avez l'impression, quelquefois, vous êtes tellement dans l'image que vous entendez le son. Alors, chacun va avoir son propre son, hein, évidemment. C'est articuler votre scène, articuler chaque dessin, chaque vignette, si tant est qu'elle est trépidante et qu'on puisse imaginer du son, mais aussi, on peut très très bien traduire le son du silence, entre guillemets, hein, par l'image, par un cadrage particulier, par un regard particulier qu'on va donner au personnage, et on va sentir quelque chose on peut imaginer sentir une musique, un son, le vent qui souffle, alors qu'il n'y a pas de vent, évidemment, mais vous allez par le dessin, par, je sais pas, le mouvement des feuilles qui tournent qui tourbillonnent dans le truc, dans l'air, comme ça, ou bien les cheveux qui partent au vent, ou l'écharpe, peu importe. Et puis, de savoir que, ben voilà, on y est, quoi. On peut très très bien imaginer le son du vent, ou le bruit de la tempête, ou le bruit de la flotte qui tombe sur, ou bien, je sais pas, les gens qui courent. Alors après, ça c'est on le sent ou on le sent pas. Hein, ça, tout le monde ne l'a pas, évidemment. Je ne dis pas que je l'ai, hein, mais puisque vous m'en parlez, j'essaie d'y répondre. Mais voilà, il faut que ce soit vivant. Une BD, pour moi, c'est ça. Il faut que ce soit vivant, qu'on y croit, qu'on soit dedans. Il faut entraîner le lecteur dans votre récit, à travers vos cadrages, à travers les expressions, à travers le bruit qu'on n'entend pas, mais qu'on imagine. Et c'est tout ça, la bande dessinée. Ça doit être, enfin, pour moi, ça doit être tout ça. Je ne dis pas que je réussis à tous les coups, loin de là, hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais disons que ce serait ma volonté de vouloir prendre le lecteur par le bout du nez, puis de l'amener là où j'ai envie de l'amener. Que ce soit par des séquences d'émotion, par des séquences violentes, par des séquences tendres, ce que vous voulez, mais de l'entraîner par le dessin et surtout par la narration, par la mise en scène d'une planche. Il faut vraiment que à aucun moment le lecteur parte en arrière en disant « j'ai pas compris là, qu'est-ce qui se passe ?» Il faut vraiment l'entraîner dans votre rythme. Bon, j'ai fait autre chose entre-temps, évidemment, mais j'ai fait ça sur une période de 3 ans et demi, 4 ans, je ne me souviens plus. Hein. Bon, je ne travaillais pas tous les jours, hein, parce que je faisais d'autres choses. Je faisais justement des scénarios à côté, des corrections de planches de dessinateurs avec qui je bosse. Enfin, donc ça prend toujours du temps. Et oui, c'est ce que je disais, moi, c'est d'avoir consacré du temps et de savoir que les gens sont rentrés dedans. Alors après, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, ça c'est un autre débat. Hein. Évidemment, on peut ne pas aimer une bande dessinée pour telle ou telle raison, parce que c'est pas le récit que vous aimez, c'est pas le dessin que vous aimez, c'est pas ceci, cela. Mais voilà, mais je fais tout, je fais en sorte que voilà, d'entraîner le lecteur dans ce tourbillon de, parce que c'est vraiment un tourbillon de, c'est loufoque, hein, dès qu'on met le pied dedans, on tourne les pages parce que ça part dans tous les coins, les recoins, tous les sens. Mais c'est contrôlé, hein, quand même.
C'est le plaisir aussi de ce livre, c'est que c'est une nouvelle piste, un nouveau domaine qu'on avait pu effectivement voir dans quelques autres histoires, mais là qui est vraiment amplifié et vraiment avec un récit qui s'emballe et qui est une des grandes qualités de la bande dessinée, de votre bande dessinée, parce que c'est pas toujours, c'est même assez rare qu'on y arrive à ce point-là. Pour terminer, je voudrais vous présenter du pain sur la planche. Le pain, c'est P-I-N. C'est un livre publié par les éditions 2042, qui est le nouveau nom depuis 2024, parce qu'il fallait bien se donner un peu plus de temps, et l'éditeur donc a choisi de s'appeler 2042. Son département jeunesse, ses livres pour la jeunesse, sont publiés par la collection 4048. Donc tout va bien. Du pain sur la planche est un livre qui va explorer d'autres façons de raconter une histoire, et notamment en bande dessinée. Et c'est un livre, comme le dit le titre, une BD dont vous êtes le meuble. Alors, en fait, c'est une bande dessinée, c'est tiré des récits dont vous êtes le héros, qui souvent sont illustrés mais relativement peu. Et donc là, on a une image par page, un format parfaitement adapté à ce genre de récit, c'est proche du 10-18, donc c'est vraiment un format vertical, et c'est une façon de montrer que ces livres dont vous êtes le héros, qui nous plongeaient dans beaucoup de surprises, mais aussi beaucoup de frustration, avec tous les retours en arrière qui étaient à faire, parce que on nous demandait de sauter de la page 25 à la page 48, et puis après, page 48, vous revenez à la page 27. Voilà, donc c'était pas toujours un fonctionnement des plus simples, mais il y avait une forme de récit qui était parfois très accrocheuse. Les trois auteurs du pain sur la planche, qui sont Olivier Bron, Caroline Klein et Timothée Ostermann, pour la partie scénario, Timothée Ostermann s'est occupé de la mise en image, ont voulu jouer avec ce principe des bandes dessinées ou des récits dont vous êtes le héros. Alors, pour vous donner déjà le récit, un meuble s'effondre dans votre salon et votre journée prend une toute autre tournure. Comment remplacer vite fait et bien fait ce meuble indélicat? Aller dans un dépôt de seconde main, foncer dans le magasin Ikae le plus proche, ou se lancer dans cette grande aventure que constitue la confection d'une étagère sur mesure avec une artisane de choc. Alors, souvent dans ces récits, il y a toujours quelques nœuds narratifs, qui fait que on va revenir, par exemple, sur un nœud narratif et prendre une autre piste. Il y a un important nœud narratif, aux pages 8-9, et je vais vous donner comme ça le ton, et puis les quatre pistes qui étaient suggérées suite à l'effondrement de ce meuble dans votre salon. Non mais quelle idée. Pour remplacer ce meuble, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous êtes quelqu'un de rationnel et raisonnable, vous aimez regarder la télévision avec vos amis et vous rêvez en secret de voyages en jet privé. Allez au magasin Ikae, boulevard de la Grosse Flemme, en page 103. Vous êtes sensible au réemploi, vous aimeriez savoir à quoi ressemblent vos arrière-arrière-petits-enfants et vous êtes fauché comme les blés, direction l'éternel Améus, rue de... en page 91. Vous avez besoin d'un meuble sur mesure, les circuits courts sont importants pour vous. Et curieusement, vous rêvez aussi de gagner au loto. La menuiserie locale est faite pour vous, rue de la classe moyenne, en page 36. Vous avez l'âme d'une bricoleuse ou d'un bricoleur. Goûtez l'ivresse d'arpenter votre propre domaine arboricole en plongeant avec Didier, Pierre Sylvain et Caramel dans le monde merveilleux du DI. Sortez vos outils du placard en restant chez vous, rue du Général Marteau, en page 14. Donc ça donne déjà une idée, et c'est la grande force de ce livre, c'est qu'il n'y a rien d'anodin, c'est pas simplement un récit dont on va vous faire explorer tous les possibles. Mais c'est un récit qui va nous replacer, simplement devant un ensemble de choix et montrer qu'on peut avoir des options différentes, des perméabilités à des concepts, à des idées différentes, des préoccupations pour l'avenir de notre planète, peut-être une insatisfaction profonde à voir les étagères, nos étagères en agglomérés prendre une courbure tellement importante que les livres d'en dessous, ben, ils sont tout plats. Donc, il y a besoin de prendre un peu de recul. Et c'est ce que réussit à faire ce pain sur la planche. Parce qu'on est vraiment... Dans cette qualité d'écriture où tous les rebondissements vont être assez étonnants. Il y a de la surprise en permanence. Par exemple, je vais prendre un peu au hasard parce que c'est tellement réjouissant. Page 39 sur un livre qui en compte 108. C'est quand même, on va dire, on a encore du récit à faire. Page 39, on peut lire. Vous êtes mort fauché dans la fleur de l'âge par vos valeurs défaillantes. Vous pensez que vos choix ne concernent que vous. Et non, la lame implacable et moralisatrice du destin s'abat aussi sur votre descendance. Allez en page 48 pour voir le monde que vous construisez. Donc on a cet humour permanent qui va, tout en étant dans cette réflexion de fond, mais apporter cette ironie forte qui fait que ça passe tout seul. Il n'y a rien de moralisateur, justement, mais par contre, il y a une sorte d'amour du bois qui transparaît en permanence et qui fait que, avant de se lancer dans l'achat de faux bois, de mélaminés, d'agglos qui sont à peine présentables, eh bien, là, on a envie d'aller beaucoup plus loin. Alors, c'est un livre qui a été conçu avec une menuiserie, la menuiserie Gribois. Donc, c'est un partenariat entre l'éditeur et la menuiserie. Et donc, c'est une sorte d'épopée ludique et sarcastique qui va traverser ainsi le monde de la menuiserie. Et c'est dans ce questionnement des rapports avec cette matière du bois, avec son toucher. Il y a des menuisiers qui vous disent « mais le bois, il faut le mâcher, il faut le sentir en profondeur parce que il va vous imprégner, vous allez après avoir une relation plus charnelle, plus intime avec... ce qui fait des meubles magnifiques. Et donc, il y a parallèlement à ça aussi, non seulement la construction des paysages intérieurs, mais il y a aussi tout ce qui est une opposition à la grande industrialisation des meubles. Et là, on a vraiment un lien qui se fait avec aussi nos forêts, notre relation au vivant et à la biodiversité. Je vais compléter par quelques infos puisque ils ont imaginé, il y a un typographe qui a imaginé une lettre inclusive pour mettre le masculin et le féminin. C'est un E qui est complété par une petite, une sorte de deuxième partie du E. Ça, c'est pour montrer qu'il y a les deux. C'est tout à fait astucieux. Le dessin est très ironique et colle parfaitement à cette histoire. Et vous imaginez que ce pain sur la planche, vous pouvez imaginer, vous imaginez en menuisier. Mais là, en rire à ce point-là, c'est quand même un grand tour de force. Les éditions donc 2042 ont édité ce livre toujours avec grand soin. Ce Pain sur la planche, signé Olivier Bron, Caroline Klein et Timothée Osterman. Timothée Osterman a réalisé également la partie dessin, les 108 pages de ce livre, qui est imprimé en 3 couleurs directes, c'est-à-dire que il n'y a pas cette décomposition des couleurs qu'on peut avoir habituellement, et ça donne aussi un ton et une atmosphère aux images très particulière. Son prix est de 16 euros. Très bonne semaine à tous. Et la semaine prochaine, nous serons avec un auteur qui vient de publier le tome 2 d'une histoire étonnante qui s'appelle « Il brûle ». À la semaine prochaine et bon après-midi sur les ondes de Radio Escapade. Merci Issa pour la technique. Écriture dessinée.
C'était Écriture dessinée avec Bruno, qu'on pourra retrouver cette émission samedi à 9h30 sur le point org.